Elle est en place, c'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
Je me suis conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps,
n'a pas d'époque, elle marque.
Son époque.
Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes? Comment habitent-elles leur corps de femme? Que pensent-elles? Écrivent-elles?
Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui je reçois Juliette Armanet.
L'enjeu, c'est de qu'est-ce qu'on fait avec sa solitude, comment on l'habite, comment on la fait sienne, en fait.
J'avoue, depuis un an, je n'écoute que des podcasts. C'est devenu une sorte de drogue quotidienne. Si je n'ai pas mes 2 heures, je me sens un peu vide. Du coup, dans mes oreilles, ça parle beaucoup et ça ne chante pas souvent. Et puis, il y a peu, j'ai ressenti comme un manque. J'étais en manque de musique. Moi qui avais passé des années à faire des playlists pour chaque humeur, j'avais besoin de piano, de guitare, de basse, de chœur, de putain de xylophone. C'est à ce moment précis que je suis tombée sur Juliette Armanet. Je crois bien que c'était par une compile des Inrock. Alors j'ai téléchargé son album, et j'ai écouté son album, et j'ai réécouté son album. Et j'ai dit à ma mère d'écouter son album, et aussi à ma pote qui habite à Los Angeles, à ma stagiaire, à ma cousine et à la terre entière en fait. Elle a accompagné un moment très précis de ma vie, un truc que la musique fait bien. Et à l'écouter chanter le sexe, la solitude, et puis les femmes et les hommes, je me suis dit qu'elle serait bien dans la poudre.
Faut pas se réduire, faut avoir le courage de prendre cette liberté-là, même si parfois elle est douloureuse.
Alors elle est venue dans la poudre, et elle a même chanté dans la poudre. C'est beau, et c'est cadeau. Avec Juliette Armanet, on a parlé d'amour, et d'Alexandre. Juliette Armanet, je suis une fille à fixette musicale. Quand je tombe amoureuse d'un album, je le mets sur repeat et je l'écoute tout le temps, jusqu'au dégoût. J'adore m'imposer des immersions dans un univers artistique, mais ça faisait super longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et là, avec Petite Amie, votre premier album, ça me le fait. Parfois la nuit, j'ai vos chansons qui tournent dans ma tête. Et je me réveille en chantonnant « Comme un manque de... » Ok, non, je vais pas chanter. Et en parlant autour de moi, en lisant un peu la presse aussi, j'ai dû me rendre à l'évidence, je suis pas la seule. Votre album, il est dans toutes les oreilles. Et c'est assez rare que ça arrive. C'est un peu toute proportion gardée, hein. J'aime bien les effets grandiloquents. Comme l'album de Daft Punk que tout le monde fredonnait à l'été 2013. Et j'ai un peu l'impression que vous êtes tombée pile, tout pile, dans l'air du temps. Est-ce que ça vous fait ça aussi?
Bah, écoutez, d'abord, merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très joli, ce petit chapeau. Je suis très touchée de ce que vous dites, en fait, ce truc d'être dans les oreilles des autres. C'est très touchant pour moi de se dire que tout ce qui a été fabriqué d'une manière assez solitaire dans ma chambre, etc., puisse s'évader et aller vers les autres. Ça, c'est très beau et je suis hyper touchée de ça, que ça accompagne la vie des gens, quoi. Parce que moi, ça a accompagné la mienne pendant assez longtemps, donc il y a aussi quelque chose de l'ordre de la délivrance quand ce qu'on a fabriqué nous échappe. C'est un moment assez magnifique.
Et il y a aussi quelque chose, je trouve, qui raconte une histoire qui colle à l'époque. Je sais pas comment dire.
Ah oui?
Ouais, parfois il y a un grain, quelque chose de la nostalgie, quelque chose, je sais pas. Pour moi, ça raconte aussi un peu le moment qu'on vit en tant que société. Vous voyez ce que je veux dire, ce que j'essaie de...
Oui, bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une sorte de, on est une génération un peu, en tout cas, trentenaire, quoi. On est une génération un peu qui avons hérité de cette liberté à tout craint dont on sait pas très bien quoi faire parfois. Donc oui, il y a peut-être aussi quelque chose d'assez doux dans le fait de se réfugier dans des bonnes vieilles chansons d'amour un peu à l'ancienne comme ça. Il y a peut-être un peu de réconfort peut-être, je sais rien.
Elles sont à l'ancienne, mais elles sont
elles sont plus queer que ça, elles sont plus barrées. Je trouve que ça raconte aussi un petit peu la folie bizarre de l'époque, du moment qu'on vit,
ah oui,
tout en étant réconfortant. Enfin bon, voilà, j'arrête de faire mon élégiaque et on va attaquer l'interview. Alors, vous êtes née à Lille, c'est mm-hmm. bien ça? Vous avez vécu quelques années, vous avez des souvenirs de Lille?
Oui, mes parents étaient libraires, en fait, ils avaient une librairie. Rue de la Monnaie, dans le vieux Lille, qui s'appelait Les Chimères. Donc voilà, que j'ai grandi dans les livres, et voilà, ils avaient cette librairie, c'était un peu babos, c'était des gens cultivés, ils le sont toujours d'ailleurs. Et j'ai grandi en banlieue de Lille, à Villeneuve-d'Ascq. On avait une petite maison dans un lotissement. Et c'était bien, j'ai quelques images en tête, et je sais que mon frère y est retourné récemment, il m'a dit que c'était beaucoup plus petit que ce qu'il avait imaginé, mais c'était très heureux en tout cas, c'était très joyeux.
C'est une enfance légère?
Ouais, une enfance dorée carrément, même j'ai eu du bol, je suis tombée sur des parents super, je pense que c'est des gens, si je les rencontrais aujourd'hui, je les trouverais chouettes quoi, j'ai eu vraiment du bol, c'est un beau couple qui s'aime, ils se sont mariés, ils ont divorcé, ils se sont remariés.
Putain, ça c'est incroyable, c'est
donc
rare.
Ils ont vraiment une histoire d'amour très forte, assez passionnelle, tout en étant très fraternel. Et voilà, on a eu du bol, ils nous ont fait faire plein de trucs, des voyages, de la musique, du sport, de la lecture. Enfin, je pense que je suis vraiment tombée élevage poulet fermier de qualité. Voilà.
Cette histoire de divorce et de remariage, vous l'avez vécu dans votre enfance?
Non, 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 ils se sont. C'était avant qu'on naisse. Mais on est nés. Mon papa avait déjà un fils qui est mon frère, qui s'appelle Alexis. Enfin bon, bref, c'est une très grande histoire. Mais du coup, l'amour est un peu sacré dans notre famille. On n'est pas. On se met pas avec quelqu'un par commodité, quoi. On se met avec quelqu'un par amour, par passion.
Par passion. Mm-hmm. Alors, vos parents étaient libraires, vous venez de nous l'expliquer, mais ils étaient aussi musiciens,
ouais.
Pianistes. Alors, votre père, c'était le jazz et votre mère, plutôt classique. C'est mm-hmm. c'est des écoles qui sont très différentes. Il y a une école qui est plutôt de l'impro, l'autre qui est plus du solfège. Je simplifie évidemment, mais qu'est-ce que vous leur avez pris à chacun de votre rapport à la musique?
Bah déjà, ce qui est sûr, c'est que cet instrument, le piano, qui était là chez nous, c'était vraiment un membre de la famille à part entière. C'est-à-dire que ça faisait partie de notre quotidien, de nos échanges, de notre vie. Tous les jours de ma vie, depuis que je suis enfant, j'entends quelqu'un qui joue au piano, que ce soit mon père, ma mère, ma grand-mère, enfin bref. Donc voilà, ça, la musique faisait partie intégrante de notre quotidien. Mais je pense que mes parents se sont aussi rencontrés là-dessus, c'est-à-dire qu'ils se sont aussi aimés par la musique, en échangeant voilà des idées, des mélodies, en se jouant des trucs l'un à l'autre. Donc voilà, moi j'ai écouté pas mal ma mère jouer du Chopin, du Beethoven, du Debussy. Mon père il nous a joué pas mal de standards de jazz et puis il compose aussi de son côté. Donc je crois que c'est en tout cas j'ai baigné dans la mélodie, le sens du rythme. Enfin j'ai grandi là-dedans quoi. Donc j'ai eu plutôt du bol et puis j'ai pas vraiment eu le choix. Donc voilà, ça faisait partie de mon quotidien.
Il y a eu un moment où vous avez un peu rejeté à l'adolescence, je crois avoir lu quelque chose comme ça.
Non, j'ai pas du tout rejeté, mais en fait, j'ai commencé à apprendre un peu les partitions, enfin à jouer voilà avec des partitions, à lire la musique, et en fait, il y a eu un moment où voilà, j'ai un peu envoyé valser le truc, ce que je regrette littéralement amèrement, parce que en fait, j'adorerais pouvoir prendre une partition et jouer un bon vieux Chopin, une Chopinade, mais je ne sais plus le faire malheureusement. Je suis condamnée à jouer mes trucs à moi. Mais non, j'ai jamais eu de rejet. Enfin, je veux dire, c'est juste que j'ai préféré composer mes propres trucs, quoi. Mais peut-être un jour, je réapprendrai à lire la musique. J'aimerais bien.
On vous parlait comment quand vous étiez petite? Quel mode d'éducation vous avez reçu? À part la musique?
Ah, c'est une bonne question. Moi, j'ai des parents qui aiment débattre. C'est bavardage ininterrompu. C'est-à-dire qu'on arrive au petit déjeuner à 8h moins le quart. C'est les grandes théories, les grands débats. On parle de tout, il n'y a pas de tabou, voilà. Il y a une espèce d'éducation bavarde, assez érudite. Donc, on m'a jamais parlé comme à une enfant, enfin, on m'a toujours parlé, comme à un individu, quoi. Et mes parents se sont toujours, ils m'ont toujours dit ça, ils m'ont dit de toute façon, dès que vous êtes nés, tous les trois, il y a eu ce rapport-là, qui était pas du tout un rapport à l'enfance, qui était plus un rapport à l'individu, avec la curiosité de savoir qui on était, en tant que personne. Donc, on s'est toujours parlé d'égal à égal. Et ça, c'est très fort, je crois.
C'est chouette, ouais. Mm. C'est rare. Mm. C'était quel genre de femme, votre maman ? Ou c'est quel genre de femme, plutôt ?
C'est une chef d'orchestre. Elle a un côté chef de chantier, comme ça. Elle est très dynamique. Elle te repeint une cuisine en 10 secondes en lisant un bouquin. Et puis après, elle joue au piano. Et puis après, elle te parle d'un truc pendant une heure. Elle est hyper active. Elle est extrêmement volubile et très tranchée, quoi. C'est elle est très honnête. Il y a pas de faux semblants. Elle est tendre. Elle est c'est une super femme, super nana. On s'entend bien.
Votre grand-mère aussi était pianiste ?
Oui, ma grand-mère était pianiste, mais en fait, elle n'était pas pianiste de profession. Elle était pianiste parce que éducation, comme ça, on lui a appris, comme une jeune fille de bonne famille, à jouer au piano et à faire de l'aquarelle, quoi. Mais elle avait une vraie sensibilité pour la musique. Et c'est étonnant parce que quand elle est tombée malade, elle a eu une maladie d'Alzheimer. Elle se souvenait plus de rien, de son nom, de son prénom, de qui elle était. Mais par contre, quand on lui jouait un Chopin ou avec une note qui était pas la bonne, elle l'entendait tout de suite et elle te disait non, mais ça va pas du tout, c'est pas ça, etc. Et jusqu'au bout, le piano, la musique est resté son bastion de liberté, de conscience. Donc c'était très étonnant, Je pense qu'elle n'a pas eu le courage, et c'était pas l'époque peut-être, d'être pianiste professionnelle et d'assumer une carrière de musicienne, mais elle aurait pu parce qu'elle était vraiment très douée.
Elle vous a transmis quelque chose ?
Ah oui, elle a appris à ma mère à jouer au piano, et puis moi je lui ai joué des trucs jusqu'à la fin.
Et alors vous avez écrit vos premières chansons quand vous n'aviez que 14 ans ?
Ouais, bon, comme plein de gens, on écrit ses premiers bavardages, gribouillages amoureux, et les émois de l'adolescence, comme ça. Oui, j'ai écrit des trucs pour mon premier amour, puis des chansons pour mes copines, et puis j'aimais bien, j'adorais ça, quoi. Je me mettre au piano, ça me faisait du bien, ça me calmait, et puis ça me permettait sans doute de comprendre un peu mieux ce que je ressentais.
Est-ce que, j'ai lu qu'il y a des chansons que vous avez écrites à cette époque, ou en tout cas il y a très longtemps, qu'on retrouve dans l'album d'aujourd'hui. Est-ce que vous sentez une continuité entre l'adolescente que vous étiez et la femme que vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que c'est la même personne ?
Oui, c'est la même personne. Je suis toujours là, donc je n'ai pas changé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bizarrement, je me suis rendu compte que ces compos-là, elles étaient assez proches de ce que j'ai fait là dans mon disque, alors que entre 20 et 30 ans, quoi, j'ai plus parti dans des trucs d'expérimentation musicale qui étaient assez différents, des trucs bruitistes, du cabaret. Enfin, je me suis un peu égarée, quoi. Je me suis cherchée, et en fait, il y a eu cette espèce de boucle où justement, quand j'ai composé Manque d'amour, je me suis dit ça y est. C'est drôle, c'est ça ma pâte, la pâte Armanet, c'est ce cocktail-là, quoi. Je l'ai senti tout de suite. Et en réécoutant par hasard les trucs que je faisais à 14-15 ans, je me suis rendu compte que c'était extrêmement proche.
Vous avez fait un détour pour revenir à vous, en fait.
C'est ça, mais en fait, mon père dit toujours, il faut consentir à soi-même. Je trouve que c'est une belle formule. Que parfois on résiste à qui on est et que on met du temps à consentir à ce qu'on est vraiment.
Vous êtes devenue femme ou vous l'étiez de naissance ?
Je suis pas sûre d'être très femme. Je me sens pas ni femme ni homme. Je me sens, euh, je me sens, voilà, comme un individu. Je sais pas trop ce que ça veut dire être femme. Je me pose pas trop la question comme ça. Je sais pas, je suis devenue quelqu'un en tout cas. J'essaye d'être quelqu'un, j'essaye d'incarner au maximum ce que j'ai en moi. J'essaye de me connaître pour mieux me faire du bien et faire du bien aux gens autour de moi. Mais je suis pas hyper femme, non.
Bah d'ailleurs, vous jouez sur le genre. Moi, ce qui m'a donné envie de vous inviter dans la poudre, c'est ce truc un peu trouble que vous entretenez. Par exemple, sur l'un de vos visuels d'album, vous posez avec une main près du visage, mais votre bras est un bras d'homme tout poilu.
Ouais.
Et puis le titre donc de votre EP, Cavalier seul. Cavalier est au masculin, seul est au féminin. Donc ça raconte quelque chose vraiment d'un vécu profond que vous avez.
Oui, bah c'est non, mais c'est que on est une génération comme ça. Hier, je parlais d'Indochine, un garçon au féminin, une fille au masculin. Ouais, on parlait d'Indochine hier avec des amis. Bah, on est un peu comme ça. On a un peu une génération troisième sexe où finalement, comme on a hérité de cette liberté d'avoir la liberté de se créer, de se connaître, mais aussi de se créer. Je trouve que c'est intéressant d'explorer. Toutes les parts qu'on a en soi qui sont qui peuvent être très très troubles et justement de pas s'enfermer dans des carcans identitaires de qu'est-ce que c'est qu'être femme, qu'est-ce que c'est qu'être homme. On est une génération comme ça où on peut se pygmalionner, on peut se créer, on peut s'inventer. Donc profitons-en. Et moi j'essaie de m'amuser avec ça, avec toutes les parts un peu troubles que j'ai en moi, de désirs vestimentaires, sexuels, identitaires. Je pense que c'est la bonne génération pour s'amuser avec ça. C'est le bon moment, en tout cas.
Ben, ça reste une forme de transgression. C'est quelque chose qui est assez politique, qui est assez... Cette liberté-là, il faut quand même avoir le courage de la prendre. On est encore dans une société qui est quand même assez binaire, dans sa vision des rôles.
Ouais, mais ça change. En tout cas, c'est à nous de le faire changer, justement, de pas s'enfermer, s'auto-enfermer dans des clichés sexistes. Je trouve que c'est tout l'enjeu aussi de la féminité. Enfin, être une femme de 30 ans à notre époque, c'est pas évident. Parce que justement, on a cette liberté-là si on veut pas d'enfant, on n'est pas obligé d'en faire. Si on veut avoir une femme dans sa vie, on peut. Donc, faut pas se réduire. Faut avoir le courage de prendre cette liberté-là, même si parfois elle est douloureuse, même si parfois elle suscite de l'incompréhension chez les autres. C'est un peu un devoir de pas renoncer à ce que notre génération peut nous amener d'insolence.
J'adore, c'est un super bon leitmotiv, s'il vous plaît.
Non, mais c'est pas toujours évident. Ouais. Moi, j'ai été célibataire pendant longtemps et j'ai senti quoi, ce regard hyper pesant de pourquoi elle est seule. On pose pas ces questions-là pour les hommes. S'ils sont seuls à 30 ans, c'est des donjons sympas et qui ont envie de s'éclater. C'est pas pareil pour nous les femmes. Ça veut dire que soit on est névrosé, soit on picole trop, soit je ne sais quoi,
soit lesbienne,
soit, enfin, voilà. Donc il y a aussi un endroit où c'est long de ne pas se réduire. C'est long de pas se dire, ah bah ok, pour faire plaisir à maman, je vais ramener Jean-Michel un dimanche au déjeuner, quoi. Il y a quelque chose d'assumer parfois l'errance que ça suscite aussi de se connaître, parce qu'il y a une forme d'errance aussi dans ce cheminement qu'on a pour s'accomplir. C'est parfois douloureux, mais faut passer par là. Enfin, en tout cas, moi je suis passée par là et je le regrette pas.
Je trouve que dans votre album, il y a aussi quelque chose qui ressort, c'est que la femme, j'avais envie de dire, elle est quittée mais pas larguée. C'est un peu l'anti-Bridget Jones. On avait cette espèce d'image de femme célibataire en culotte gaine, en train de faire des miettes sur son canapé, en écoutant All By Myself. Et là,
j'adore All By Myself.
Oui, enfin,
j'adore la version de Eric Carmen.
Oui.
Qui est d'ailleurs, en fait, ce thème-là, c'est un thème de Rachmaninoff. Voilà, donc c'est Eric Carmen qui a repris du Rachmaninoff.
Une vraie musicienne dans la peau.
Non, mais voilà.
Mais en tout cas, je trouvais que l'image de la femme seule que rend Petite Amie, d'ailleurs, le paradoxe est aussi intéressant, c'est une femme qui est sexy, qui est mystérieuse, qui est envoûtante. Et c'est rare qu'on arrive à renvoyer voilà, une image du célibat qui peut être un peu glamour ou un peu attrayante, quoi.
Parce que le mot célibat, je le trouve assez laid. L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est de qu'est-ce qu'on fait avec sa solitude. Et même d'ailleurs, quand on est en couple, ou quand on est avec, j'aime pas non plus ce mot être en couple, quand on a rencontré quelqu'un avec qui on partage sa vie, il y a une forme de solitude existentielle qui existe, qu'on soit avec quelqu'un ou qu'on soit seul. Et cette solitude-là, c'est la condition humaine, c'est éternel. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette solitude-là? Comment on l'habite? Comment on la fait sienne, en fait. Et c'est pas la question d'être largué, d'être quitté, comment on va prendre cet espace-là, comment on va l'habiter. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a intéressé dans les échecs amoureux. C'est ça qui se met en question. C'est pas que le manque de l'être aimé, c'est comment être avec moi-même, comment vivre avec soi. C'est aussi ça que ça pose comme question. Mmh.
Pour en revenir un peu à votre parcours, vous avez fait des études littéraires, vous êtes passé par une prépa à Hippocagne, Cannes, vous avez fait du théâtre, et vous voulez devenir comédienne à l'époque. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? C'était une envie d'être sur scène déjà, une envie d'être regardée?
Non, pas du tout, c'était une envie de dire les textes des gens que j'adore, de faire vivre la langue de Shakespeare, de Molière, de Marivaux, de Tennessee Williams, voilà, enfin, c'était avant tout un amour immense pour la littérature et pour les beaux textes. Voilà, c'était une continuité sans doute de mes études de lettres. Et puis j'aime bien le théâtre parce que c'est un lieu de, comment dirais-je, le rapport au temps est assez magnifique, c'est-à-dire qu'on enferme des gens dans une boîte noire pour les faire rêver sur le monde, pour les faire réfléchir, pour les faire voyager dans des fictions, dans des histoires. Et il y a une espèce de temps comme ça de la représentation qui est un temps hors du temps, un temps magique, presque un temps de l'enfance, quoi. Donc c'est complètement à contre-courant de notre génération, de notre époque, et du coup ça me plaisait bien d'être au présent, de faire vivre le présent d'une manière extrêmement vibrante comme ça. Donc j'adorais, et puis j'aimais bien l'idée de la compagnie, de la troupe, côté saucisson, vin rouge, Shakespeare, Mouchkine, voilà, je trouvais ça.
Ça fait envie.
Ça fait très envie, mais la réalité du métier de comédien est bien plus prosaïque malheureusement, en fait, en vérité, j'avais une vision très idéaliste de qu'est-ce que ça pouvait être qu'être comédienne, et le réel était bien plus difficile, de casting pour les pubs quick, d'attente, quoi, éternelle pour rencontrer un metteur en scène qui va vous faire... Enfin, moi, j'ai joué 80 fois la même pièce où j'avais une réplique, enfin bon... Donc c'est un peu la désillusion, quoi. Mais j'ai vécu des moments magnifiques. On a monté Comme il vous plaira de Shakespeare, et c'était des moments merveilleux, quoi. Vraiment, j'ai regretté de pas rentrer au conservatoire. Enfin, ça a été un grand. C'était assez. J'étais vraiment désespérée, quoi, que ça marche pas. Mais du coup, je suis partie faire autre chose parce que je me suis dit, bon, si vous ne m'aimez pas, eh bien moi non plus.
C'est un milieu qui est un peu sexiste aussi. Quand vous parlez des castings, on entend parfois des choses complètement dingues. On demande aux femmes d'avoir le pile du bon âge, le pile la bonne taille, et puis la bonne couleur de cheveux.
Ça, c'est partout pareil, hein. Politique, ouais. Au théâtre, au cinéma, n'importe quelle entreprise, je pense qu'on a encore des progrès à faire.
Clairement. Et donc, finalement, vous devenez journaliste.
Oui, enfin, journaliste, c'est pas vraiment ça, c'était... j'ai fait des documentaires, je me suis retrouvée un été, du coup, j'avais un projet de théâtre qui s'était annulé, et puis il était hors de question que je ne fasse rien, n'est-ce pas? Donc, du coup, je me suis retrouvée à faire un stage dans une société de production qui travaillait pour Arte. Mmh. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai accompagné une réalisatrice sur un tournage, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui avait son permis de conduire, ce qui était mon cas. Et puis j'ai adoré sa façon de travailler, et j'ai adoré ce truc de voyager, de rencontrer les gens, de leur donner la parole, de les écouter, et de développer un regard sur le monde qui soit aussi un regard un peu social, quoi.
Ouais.
Donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Mais c'était pas vraiment du journalisme, c'était du documentaire, des
synthèses. C'était du temps long, ce qui est rare hein, quand on travaille dans les médias, d'avoir le temps de produire des choses qui s'écoutent, ou
absolument,
qui se regardent longtemps.
Ouais, ouais, exactement. Et voilà, et c'était génial. J'ai fait, j'ai voyagé, j'ai fait des docus d'auteurs où j'avais personne pour m'emmerder, pour réécrire ce que je faisais. Et j'ai adoré ça.
J'ai écouté, en fait, vous avez fait un reportage pour mon émission de radio préférée qui est Les Pieds sur Terre de France Culture.
Ah oui, oui.
Et j'ai écouté un sujet que vous aviez tourné, enfin réalisé sur une championne de boxe.
Leïla.
Ouais, mon mec c'est la boxe, hein, une mère célibataire, précaire. C'était extrêmement touchant. J'ai presque eu les larmes aux yeux par moment quand elle parlait. Est-ce qu'il y avait, enfin vous venez de nous répondre un petit peu, une démarche un peu politique, un peu sociale dans votre façon d'exercer ce métier? Vous transmettiez des messages quand même.
Bah, il n'y a rien de politique, je suis pas du tout, mais en tout cas, non, c'était juste de donner la parole à une fille que j'admirais énormément, et puis qui se battait au sens littéral du terme, mmh, puisqu'elle boxait, et puis elle fait 1m52, elle a eu un enfant très jeune, et c'était juste partager avec quelqu'un sa tranche de vie, et ça donne du courage de voir comment les autres se battent avec leur propre existence, et vont au bout de leur désirs, de leurs rêves, etc. Et puis, c'était une belle rencontre. Mais parce qu'en fait, je l'ai rencontrée parce que mes parents, à l'époque, ont fait un documentaire sur le club de boxe d'Aubervilliers. Et je les avais suivis un jour parce qu'ils filmaient les gens là-bas et tout. Et puis, j'avais rencontré Leïla et je m'étais dit que ça ferait un très beau sujet de radio. Mais d'ailleurs, moi, si c'était à refaire, je ferais que de la radio. Je trouve que c'est 1000 fois mieux que la télé.
Moi aussi, je trouve.
Ouais, c'est vrai.
Bon, en tout cas, le docu est encore en ligne, on peut l'écouter. Ça s'appelle Mon mec, c'est la boxe. J'ai lu que ça vous avait aidé à vous décomplexer d'exercer ce métier.
Bah, en fait, non, c'est. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas tellement de se décomplexer, c'était plutôt de rencontrer le monde. Parce que moi, j'ai été élevée quand même dans un... J'ai eu de la chance, quoi. J'ai été élevée dans un cocon. J'ai une famille, avec de la bienveillance, des moyens pour vivre, etc. Donc, ça m'a aidée aussi à rencontrer la vie des autres, à sortir un peu de mon milieu à moi, à m'ouvrir les yeux sur la complexité des destins humains. Et ça m'a décrassé quoi un peu, ça m'a encanaillé quoi, ça m'a fait du bien de sortir un peu aussi de mon univers qui était assez assez charmant, assez idyllique. Donc ça m'a rendu très curieuse, voilà.
Un peu déconstruite comme on dit dans le milieu un peu universitaire.
Oui, pourquoi pas, c'est un bon terme, ouais, carrément.
Et après, la musique vous a rattrapé. Alors là, pour le coup, c'est pas la même histoire parce que faut monter sur scène. Est-ce qu'il a fallu opérer une sorte de mue, une transformation physique, visuelle? Est-ce qu'il a fallu réfléchir à la femme que vous vouliez être quand vous allez...
Je me suis fait refaire le nez, les seins.
Ah bah, c'est bien ce que je voulais dire. J'en ai, ça se voit. Ça se voit.
Non, c'est une bonne question. Déjà, faire les plateaux télé et faire de la scène, ça n'a rien à voir.
Ouais.
C'est-à-dire que la scène, c'est un lieu très naturel pour moi, où je me pose pas tellement la question de la représentation, où j'essaye juste d'être au plus près de l'émotion et de la musique. Donc c'est pas du tout le même enjeu de comment je me représente. Les plateaux télé, etc., ça c'est un exercice de style qui est parfois drôle et parfois pénible. Et puis il faut réussir à rester calme.
Ouais, mais j'avais une question qui arrivait d'ailleurs là-dessus, si vous voulez, je vous la fais tout à l'heure.
Mais bien sûr qu'on se pose la question de comment se représenter les premiers trucs, comment je m'habille, comment mm-hmm. je me maquille, quelle image j'ai envie de donner de moi. Et puis on m'a proposé des tenues un peu extravagantes, des trucs, et puis non, je peux pas. J'avais l'impression, et j'ai l'impression que il faut que je puisse rester vraiment moi-même, quoi. Il faut pas se farder. J'admire les Bowie, les Lady Gaga qui arrivent à rentrer sur un plateau télé avec une perruque de 15 mètres de haut, des talons de 35 centimètres, et parce que il y a une forme de projection de soi. Moi, j'ai besoin qu'il y ait un lien avec ma vie, sinon ça me sinon ça me déstabilise trop, quoi. Mais bien sûr qu'on se pose la question de comment on se représente, et les shoppings de dernière minute où on va essayer des trucs en sueur dans une cabine avec ma cousine qui est styliste, où on est le rose, mais non, c'est immonde sur un plateau télé, il y a le violet, pourquoi pas, cette ceinture, elle me sert trop. Bon, c'est drôle, et en même temps, maintenant, j'ai opté pour un truc très un peu uniforme.
Vous êtes souvent
un
noir.
Jean, ouais, un truc noir, un truc simple, pour qu'on puisse justement s'intéresser à ce que je raconte. Je pense que c'est peut-être mieux, puis moi, ça me va mieux, en fait.
Mais vous avez quand même créé aussi autour de vous un univers où la kitscherie est souvent bienvenue, quand on voit vos clips ou vos mises en scène de concert avec votre piano à cheveux, des choses comme ça.
Voilà, mais ça, c'est extérieur à moi, et puis c'est des images que je crée autour. Mais moi, j'ai besoin de rester... simple. Enfin, j'ai besoin que ce soit simple, moi, ce que je dégage, parce que sinon... Enfin, et puis, je m'assume pas assez physiquement pour oser des trucs extravagants, quoi. Quand on fait des shootings de mode pour des magazines, c'est pour moi, c'est un calvaire absolu, quoi.
Être prise en photo, ce genre
de choses. Je suis pas mannequin, je fais 1m58, j'ai des grandes épaules de nageuse roumaine. Je suis pas faite pour ça, quoi. Donc, du coup, c'est pas mon rôle, en fait.
Mais ça va avec.
On peut
pas y couper, quoi, quand on fait ce métier.
Non, on peut pas y couper, mais c'est pas vraiment pas ce que je préfère. Je suis vraiment honnête, c'est... j'aime pas trop, quoi. Ouais.
Et alors, vous parlez de la télé. Moi, j'ai regardé une rediffusion, enfin, pas une rediffusion, d'ailleurs, un replay sur YouTube de votre interview chez Laurent Ruquier. J'avais la tête dans les mains pour vous. On vous interrompt en permanence. On parle à votre place. On vous compare à la terre entière. Dès qu'il y a le nom d'un mec qui surgit, on sous-entend à moitié que vous avez couché avec. Enfin, moi, peut-être que je suis un peu oversensible à ce genre de petites choses. Vous êtes très patiente.
Non, mais parce que, en fait, c'est fait pour ça. C'est fait pour t'énerver. Donc, j'ai pas du tout envie de créer du buzz autour du fait que je m'énerve sur un plateau télé.
Ça pourrait marcher.
Non, mais je suis pas Gainsbourg, quoi. Je suis pas là pour brûler des billets de banque sur des plateaux télé. C'est pas du tout. J'ai pas du tout ce charisme-là déjà. Et puis j'ai pas envie de dénaturer le message que je viens défendre. Le message que je viens défendre, c'est que j'ai fait un disque et que je serais ravie que les gens l'écoutent. Je suis pas là pour me faire un bras de fer avec monsieur Bénichou qui a 25 ans de télé derrière lui et qui est le meilleur ami de Laurent Ruquier. C'est précisément le fait de rester hors de ça qui fait que je préserve le message que j'ai à dire. Après, c'est la télé. C'est quand même un univers où tout va vite. Et puis c'est un univers faux. C'est quand on est sur un plateau télé, l'enregistrement Ruquier, ça dure 4h30. On peut pas se mettre un doigt dans le nez, se toucher les cheveux pendant 4h30. Tout le monde est au garde à vous. On est là, c'est de la publicité. Donc par définition, il y a quelque chose d'hors de soi. J'essaye de préserver au maximum le contenu de ce pourquoi je suis sur le plateau. Mais oui, c'est très déstabilisant, évidemment.
C'est un univers d'hommes aussi, non? C'est un univers masculin.
Oui, mais tout est un univers masculin. Tout est un univers masculin. Bon, ça. Pff.
Je sais pas, j'ai envie de vous tirer. Enfin, même, par exemple, le fait qu'on vous compare systématiquement à n'importe quelle chanteuse qui s'est mise devant un piano un jour, j'ai pas l'impression qu'on inflige ce genre de choses aux hommes, aux artistes masculins. Non, ça, c'est pas.
Si, mais en fait, moi, j'essaie de pas rentrer dans ce débat-là,
ouais.
Parce que j'ai pas envie d'entrer dans un débat de femmes. C'est-à-dire que j'ai pas du tout ce discours-là. J'ai pas du tout envie de me réduire à une artiste femme. J'ai pas du tout envie de dire parce que je suis femme, j'exige qu'on ne me compare pas ou que machin. Parce que je suis femme, j'exige que monsieur Bénichou ne sous-entende pas que j'ai couché avec Laurent Voulzy. on s'en fout. C'est pas du tout ça l'enjeu du truc. Je sais moi ce que j'ai à défendre et j'ai pas envie de me. Alors évidemment, hein, je suis la première à estimer qu'on a encore que le féminisme a lieu d'être, qu'on a des acquis sociaux qui sont des très précaires et qu'il faut se battre et que pas du tout se dire que sous prétexte on a le droit de vote et la pilule, il faut s'arrêter là et pour l'instant, mais j'ai pas envie de rentrer dans ces débats là moi ça me je suis un individu, je suis un citoyen, je suis pas juste une femme qui se bat pour voilà, j'ai pas envie de ça.
On vous associe aussi souvent à toute une nouvelle génération d'artistes féminines. J'ai vu plusieurs interviews où on vous met au
côté de Fishback. Et là aussi, ça m'énerve. Ouais. Là aussi, c'est énervant parce que, en fait, les titres, bande de filles, etc. Mais c'est... ce qui est chouette, c'est que du coup, ça a créé des rencontres avec des artistes que j'adore. Mais là encore, pourquoi est-ce qu'on met pas Flavien Berger, Paradis, Jacques? Enfin, pourquoi est-ce qu'on crée pas plutôt une génération mixte, quoi, plutôt que de encore parler de femmes, etc. Enfin, c'est un petit peu réducteur, j'ai l'impression.
Mais c'est intéressant votre façon de vouloir faire exploser cette binarité. C'est... Enfin, ça va loin, je trouve, dans la théorie,
dans la
pensée.
Mais non, mais c'est vrai, une femme fait une pizza, et d'un seul coup, on dit, et elle fait des pizzas, et en plus, c'est une femme, bah, on s'en fout. Je veux dire, justement, essayons d'être un petit peu plus... enfin, de voir un petit peu plus loin, quoi. Je veux dire, justement, si on parle d'égalité, dans ces cas-là, on va pas faire un reportage sur une femme qui est camionneur, juste parce qu'elle est femme, en fait. C'est... j'ai l'impression que c'est un peu ringard, voilà, pour être honnête.
Et je pense que c'est le moment... Normalement, je la pose plus tard dans l'émission, mais quel rapport vous avez à votre utérus?
Oula! C'est une sacrée question. C'est-à-dire?
Je sais pas. Moi, c'est une obsession que j'ai. J'ai l'impression que cet utérus, finalement, qu'on est censé remplir de quelque chose, voire de quelqu'un, qui se rappelle à nous tous les mois, qu'on nous rappelle qui existe en permanence, est une grande partie à des choses qui empêchent justement ce que vous appelez de vos voeux. Hein, oublions qu'on est femme, bordel. Quel rapport vous avez avec le vôtre?
Alors là, je suis totalement incapable de vous répondre. J'en sais rien, je le prends comme il est, je sais pas comment dire autrement. J'ai le souvenir quand on avait fait un documentaire sur, j'avais fait un documentaire sur le premier film de festival érotique qui avait eu lieu à Amsterdam dans les années 70. Il s'appelait le Wet Dream Festival, le festival des rêves humides. Il y avait une image très belle d'une femme allongée comme ça, on voyait juste ses jambes et son sexe, et elle lui mettait un miroir devant son sexe. Et il y avait écrit « Ladies, love your cunt », c'est genre « Femme, aimez votre sexe », quoi. Donc, je pense que ça résume bien ma position d'essayer d'aimer son propre corps, de l'accueillir comme il est, quoi.
Eh bien, ça amène directement à une question que je voulais vous poser. Est-ce que L'amour en solitaire, qui est ma chanson préférée...
Est une chanson sur la masturbation?
Oui.
Bah, bien sûr, ça joue là-dessus.
Moi, je l'entends vraiment comme ça.
Tout le monde ne le comprend pas, mais tout le monde, chacun l'entend comme il le veut. Il y a un peu de ça, évidemment.
C'est important c'est quelque chose qui est très tabou, encore une fois, surtout concernant la sexualité féminine. D'inciter ou d'appeler à donner du plaisir soi-même, à enlever le phallus de cette histoire.
Vous avez très envie d'enlever le phallus de cette histoire, j'ai l'impression.
Moi, c'est mon côté misandre qui ressort de plus en plus, il faut que je me contrôle. Parce que... vous avez fait la première partie de Juliette Gréco, je crois.
Ouais.
C'est une de mes idoles. Je me posais la question, quelles sont les femmes que vous admirez, vous?
Non mais elle est extraordinaire cette femme. En fait c'était étonnant parce que c'était au printemps de Bourges et je suis arrivée et il y avait des prompteurs sur scène avec le texte écrit en caractère genre énorme. Je me suis dit quand même bon elle est vieille Gréco, il y a un moment faut savoir s'arrêter, les prompteurs c'est la maison de retraite quoi. Et je suis allée la voir dans sa loge, j'avais acheté un bouquet de fleurs pour lui donner, c'est Juliette Gréco, quoi. Et puis j'ai fait mon truc, je joue, et puis elle jouait juste après moi. Et je me mets dans la salle, et là, elle s'est mise à chanter. Et sincèrement, je crois que c'est un des plus beaux concerts que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire que cette femme qui a 90 ans est arrivée, je crois qu'elle fait 1m85, elle est immense, elle a une gueule complètement improbable, elle a un côté Belphégor, elle a une grande robe noire en velours avec des grandes manches comme ça, et d'un seul coup elle s'est mise à chanter, mais on aurait dit, je sais pas quoi, une Lolita de 15 ans, complètement insolente, drôle, sensuelle, émouvante, sexy. Et puis bon, elle chantait le plus beau texte de la chanson française, donc ça aide. Tout le monde était en larmes et elle s'est évanouie 3 fois. C'était complètement dramatique. Et sincèrement, j'ai été éblouie, quoi, par cette femme. Je me suis dit, mais si à 90 ans, je suis encore sur scène à chanter comme ça, je peux dire que j'aurais réussi quelque chose. Elle est géniale.
Une icône.
Ah ouais, ouais, génial, génial. Mmh.
Vous avez d'autres femmes qui vous, pas forcément qui vous servent de modèle, mais en tout cas que vous admirez ou
ouais, vous j'adore Françoise Sagan.
Ouais.
J'adore Sagan parce que justement, s'il y en a bien une qui a pensé la liberté, c'est elle. Mmh. Et justement, elle a pas parlé spécifiquement des femmes. Mmh. La force de Sagan, c'est qu'elle te parle de l'individu. Voilà, et que c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a aucune conception sexualisée de son rapport à la liberté. C'est l'extrême modernité de son propos. Tout en étant totalement midinette et roman à l'eau de rose, et elle a un côté vieux téléfilm, un peu suranné. Mais la vie qu'elle a eue, le rapport aux hommes, aux femmes... au jeu, à la vitesse, à l'argent, au succès. C'est quelqu'un de très inspirant pour moi. Ouais.
Les hommes, ils en prennent un peu pour leur grade quand même dans votre album. D'ailleurs, c'était étonnant.
Ah non, pas du tout.
Alors, j'ai une amie avec qui j'ai déjeuné hier qui m'a dit, Juliette Armanet, moi je suis fâchée avec elle, j'aime pas du tout ce qu'elle dit. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Il peut te sembler si polémique. Elle dit dans une chanson, t'es odieux, mais t'es mon dieu. Donc ça veut dire que le mec la traite mal et qu'elle se soumet à lui. Donc c'est dans Alexandre, qui est une très très belle chanson, très beau texte.
Merci.
Qu'est-ce que vous répondez quoi à ça?
Bon, non, là, je pense que c'est quand même de l'humour à la base. Donc, après, si ça ne la fait pas rire, c'est quelque chose de différent. Non, là, c'est de l'humour. Sincèrement.
T'es odieux, mais t'es mon dieu, c'était pour le
oui,
mot.
Et puis, c'est pour une rime. Et puis, bon, là, je ne sais pas trop quoi dire, j'avoue.
Et bon, il n'est pas méchant, l'homme de la petite amie.
Non, mais pas du tout. Mais moi, j'ai aucune haine envers les hommes. Je suis pas du tout comme ça. J'ai pas du tout.
J'ai pas eu cette lecture, mais je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je pense que je pourrais lui poser la question.
Non, mais pas du tout. On parle d'amour, on parle de déception. Et puis d'ailleurs, c'est pas que des histoires d'hommes et de femmes. Il y a des histoires de femmes et de femmes dans cet album aussi.
Et parfois, c'est un homme qui parle.
Et voilà, et parfois, c'est un homme qui parle. Donc, je parle pas d'amour au sens avec un homme plus une femme égale. Enfin, c'est beaucoup plus. J'espère, en tout cas, j'essaye. De parler de ça au sens beaucoup plus large du terme. Enfin...
Quand on écoute les textes, et quand on les lit d'ailleurs, parce que vous avez envie qu'on les lise, vos textes.
Ah ouais, exactement, c'est chouette que vous disiez ça. J'ai pris beaucoup de temps pour la mise en page, pour que j'ai emmerdé tout le monde avec les majuscules à tel ou tel endroit, les trois petits points, les virgules. Mais parce que... Pas du tout, parce que j'ai la prétention d'être un poète, hein, pas du tout, mais c'est que comme j'ai pris du temps pour écrire, je trouve que c'est important aussi. Moi, j'aime bien quand on a un disque, regarder les paroles, m'y perdre, puis parfois on entend autre chose, et puis en fait, il y a des jeux de mots qu'on ne comprend qu'à l'écriture.
Mon alter, mon ego, je l'ai découvert en le lisant.
Donc c'est drôle, et puis moi, j'aime bien faire ça avec les albums que j'apprécie, de prendre le temps de lire, de regarder, etc. Donc, je me suis dit, s'il y a quelques curieux qui prennent le temps d'ouvrir le livret et de le regarder, en tout cas, ce sera fait avec soin.
Ça l'est. C'est agréable à lire. C'est vraiment une expérience très littéraire, en fait, cet album. J'ai lu que vous écriviez par nécessité. Mm-hmm. Et je sais que pour écrire, il faut avoir accès à sa chambre à soi. C'est Virginia Woolf qui me l'a dit. Est-ce que vous y avez accès?
C'est drôle que vous parliez d'une chambre à soi, c'est quelque chose qui me touche, c'est un roman que j'adore. Et c'est surtout une notion que j'aime beaucoup, l'idée d'avoir une chambre à soi, un espace à soi partout, d'avoir son terrain de jeu, quoi. Pardon, j'ai perdu cette question.
Bah, vous l'avez, votre chambre à vous, alors? Vous arrivez à la trouver dans votre quotidien, dans votre vie?
Oui, quand j'ai emménagé avec la personne avec qui je vis, c'était un peu le problème de se dire, mais comment... Parce que mon piano est chez moi, et que je pouvais pas... je ne peux pas composer ou jouer, j'ai même du mal à jouer quand il y a quelqu'un dans la pièce. Donc je me suis demandé comment j'allais faire, donc j'ai trouvé une petite chambre de bonne... qui fait 6 mètres carrés, au 7e étage d'un immeuble. Et voilà, et j'y vais tous les jours, je vais chanter là-bas, lire, écouter de la musique, écrire. Donc c'est petit, mais c'est pas mal.
Donc elle existe vraiment physiquement.
Elle existe physiquement, chambre, mais je ne pourrais pas faire... C'est ma garçonnière, je pourrais pas faire autrement.
C'est fabuleux d'avoir ça, c'est une chance.
C'est nécessaire pour ma vie, voilà, ma vie conjugale, et puis c'est nécessaire pour moi, pour ma créativité. J'ai besoin d'avoir un lieu de, où je m'échappe, où je, c'est important, vraiment.
Ça revient à cette histoire de solitude aussi dont vous parliez.
Exactement.
Pouvoir être seule, quoi.
Savoir être seule, ouais.
Savoir être seule. J'avais hyper envie de vous demander, mais sentez-vous libre de me dire non si c'est compliqué, si vous vouliez bien chanter ou chantonner quelque chose pour les auditrices et les auditeurs de La Poudre.
C'est chaud, ça.
Ouais, je sais.
Alors, qu'est-ce que je peux chanter? Je vais chanter Alexandre, du coup, pour votre ami.
Ah, génial. Carrément. Ça va lui plaire.
Alors, j'y vais, je ferme les yeux. Alexandre, je t'aimerai toute ma vie. Pour une cendre, rien qu'une cendre de ta luquille. Ah, Alexandre, tu es ma Californie. Tes mots tendres nagent dans mon bikini. T'es mon blasphème, ma plus belle insomnie. Mais te dire je t'aime, je sais, mais t'interdis. T'as beau être odieux, tu es mon Dieu.
J'ai des frissons partout. Merci.
Merci beaucoup.
Une petite dernière question, ça évoque quoi pour vous, La Poudre?
Mais justement, je trouvais que c'était joli la façon dont vous le prononcez. Je sais pas, j'aimais bien le P, le DR, comment vous le dites, c'est assez joli. La poudre, c'est plein de choses. Le maquillage, la guerre, la drogue. Voilà.
C'est ni masculin ni féminin.
C'est féminin quand même, j'ai l'impression. Mais non, c'est un joli mot, la poudre. Poudrer. Je crois que ma grand-mère disait ça. Je vais me poudrer. Allons-nous poudrer le nez?
C'est ça. Merci beaucoup, Juliette.
Merci beaucoup. Merci. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries.
Pas du tout, c'était génial.
Merci à Juliette Armanet d'être venue faire parler La Poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr. Merci à l'hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le 10e, en plein dans le quartier qui bouge, qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à pattes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris perles. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la Fidélité. Si vous réservez avec le code La Poudre, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein? À plus!